Vous écoutez.
Salut les anonymes, c'est J.U.D. de D'amour et de sexe et c'est le moment que vous attendiez tous. Le 17 mars prochain, préparez-vous à une soirée épique au House Gang pour célébrer les 6 ans et le 300e épisode de votre podcast préféré. On va recréer l'ambiance du studio dans un enregistrement spécial devant public. Sur scène avec moi, certaines de vos co-animatrices préférées, Tia, Tammy Tuesdays, La Sirène. Puis en plus, je vais être accompagné de Edlin de LCDA et de Maki Lavender. La première partie sera assurée par le talentueux humoriste Jean-Michel Elie. Et l'ambiance musicale sera assurée par le sensationnel Quad. Attendez-vous à des éclats de rire, des discussions enflammées et des prix à faire gagner tout au long de la soirée. So, rendez-vous au Instagram de D'amour et de sexe et cliquez sur le lien.
Salut tout le monde! Avez-vous passé une belle fin de semaine? Parce que moi, oui, je suis tellement contente, j'ai réussi à aller voir Dune 2, finalement. Bref, je vais me passer de commentaires pour le moment parce que je sais que je pourrais faire littéralement 2 heures là-dessus non-stop. Donc, on va jumper tout de suite à l'agenda de la semaine. Donc, cette semaine, lundi 11 mars, on commence avec les préliminaires des Francouvertes avec Fantôme, Collation et Princesse au cabaret Lion d'Or à 20h. Ensuite, on a mardi, encore une fois, deuxième partie des préliminaires des Francouvertes avec Maud Evelyne, Paruline, Soleil, Launière au cabaret Lion d'Or toujours à 20h. Encore une fois, tous les événements dont je parle ici dans l'agenda de la semaine seront disponibles en description et aussi en lien sur notre Instagram à danslesairs.podcast. N'hésitez pas si vous avez des questions. On enchaîne avec mercredi 13 mars. Il y a un beau drink and draw. On en parle souvent aussi au Ping Pong Club. C'est gratuit de 18h à 23h. Jeudi 14 mars, vernissage de l'exposition Lacune par l'artiste Debbie Kenoté. Moi, je vais être là. Ça va être dans une belle galerie sur Sherbrooke, la galerie Durand-Machal de 17h à 20h. Ça risque d'être très coloré. Vendredi 15 mars, je vous propose un petit rave de vampire parce que, il me semble, ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé ça au Stéréo Club. Ça va être Atrox. J'aime vraiment beaucoup. C'est de la belle musique violente techno. C'est de 23h jusqu'à 8h du matin. Fait que si vous êtes prêts à faire votre petit rave de vampire, c'est là que ça se passe ce vendredi. Ensuite, on a samedi 16 mars, exposition au Musée des Beaux-Arts. Ça s'appelle « Sans invitation, les artistes canadiennes de la modernité ». Le Musée des Beaux-Arts nous propose ça du 3 mars au 20 août. De ce que j'ai compris, en fait, c'est sont vraiment en mode, on veut mettre les femmes artistes canadiennes de l'avant. Parce que comme on sait, ben dans l'histoire de l'art, surtout en art visuel, les femmes, ils ont pas été très mises de l'avant. Hein? Fait que ça va faire du bien, je pense, cette exposition-là. Je vais aussi vous parler. Dimanche, vous le savez aussi, souvent, moi, je me repose. Là, fait que j'ai écrit que je vais peindre des décors pour un band de musique que j'aime beaucoup, Mystère à suivre. Puis je vais penser à Dune 2. Fait que voilà, si vous avez des choses à me proposer à faire dimanche... C'est ça. Moi, je vais être en train de peindre puis passer à Dune 2. Sinon, nouvel établissement, j'ai leur prog parce que je les aime beaucoup. Je pense que c'est le fun de mettre leurs événements de l'avant parce que c'est surtout aussi des DJ et des DJettes de l'émergence. Donc, jeudi, on a une soirée techno avec DJ Police, Katamina, Dopamine et je sais pas, je dis ça comme dimanche, je suis vraiment désolée, là, mes chers DJ. K657, 6$ en entrée. Ensuite, on a vendredi, une soirée techno house avec DJ Esther, 11-11-H-H-H-A-R, je suis tellement désolée, Esme, la porte à 12$. Ensuite, samedi, c'est une soirée techno house breakbeat avec DJ Paolo, Askia et DJ Gentil à 6$. Alors, aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, je suis accompagnée de 3 fantastiques personnes. J'ai nommé Nathaniel, Delphée et Megan pour la première fois. Salut!
Bonjour!
Megan, je pense que tu avais comme un match d'impro à me parler, côté
oui.
agenda.
Ben dans le fond, c'est ça, faut pas manquer ça, surtout cette semaine. C'est mardi, le 12 mars, à 21h, au J1120, un match de la Lacie, de l'impro, les verts contre les jaunes.
Malade! Merci, Megan. Ben oui, c'est ça, chers auditeurs, auditrices. Megan, c'est sa première fois avec nous. Elle est là comme pour tâter le terrain, pour participer et tout et tout. Il n'y a pas nécessairement de chronique faite par Megan. Peut-être qu'un jour, oui, on aimerait ça. Mais bref, on souhaite la bienvenue à Megan. Et aujourd'hui, on a un menu très bien rempli. Donc, vous l'aurez deviné, on va avoir une chronique de l'univers avec Nathaniel. Et il y a Delphée qui nous a concocté, pas une, mais 2 chroniques. Je suis tellement excitée. Fait que je vous propose qu'on commence avec Delphée. On continue avec Nathaniel. Puis ensuite, on finit en beauté avec Delphée. Qu'est-ce que vous en dites?
C'est parfait.
Let's go, Delphée. Le micro est à toi.
En fait, moi, ma chronique, ça va porter sur Le Successeur, donc le film de Xavier Legrand qui est en salle depuis le 2 février dernier. C'est un film qui fait beaucoup jaser ces temps-ci, qui passe vraiment beaucoup dans les nouvelles et pour les bonnes raisons. C'est un film absolument exceptionnel. Alors, pour l'introduire un peu, ce film-là a été produit par la Belgique, le Québec et la France. Donc, on a vraiment un beau mariage entre la culture québécoise et européenne. On va voir un peu de Paris et de Montréal dans ce film-là. L'acteur principal qu'on connaît très bien maintenant, c'est Marc-André Grondin, qui joue le rôle de Elias, le rôle principal. Et ce film-là est basé sur le roman de Alexandre Postel qui s'appelle « L'Ascendant ». Fait intéressant, le film a été tourné en 25 jours et en ordre chronologique. Donc, de la première scène à la dernière, c'est extrêmement rare pour un film.
Comment?
Ouais.
Comment?
J'en ai aucune idée comment ils ont réussi. Mais en fait, les premières scènes se déroulent à Paris.
Ils ont fait ça sur iPhone, quoi? Je comprends pas.
Non, même pas. Mais en fait, cette méthode-là a permis, entre autres, à Marc-André Grondin, qui a un personnage qui a une grande vulnérabilité psychologique, d'être réellement vulnérable psychologiquement à la fin du film. Fait que les expressions qu'il démontrait étaient pas seulement son jeu d'acteur, mais sérieusement...
C'était genuine, là.
Sa vraie fatigue. Oui, sa vraie fatigue, sa vraie déprivation de sommeil et d'énergie.
Je sais pas si en termes de norme du travail, c'est recommandable, mais...
mais comme processus artistique, c'est très fort.
Oui, malheureusement, oui.
Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça a été tout le long filmé à Paris, tout le temps dans le même genre d'endroit où ils se sont déplacés?
En fait, le film commence à Paris, mais c'est vraiment, comme je vous dirais... 15% du film Paris. Là. C'est vraiment pas une grosse tranche. Mm. Tout le reste se passe à Repentigny, en fait, un peu à Montréal. Hein? le beau décor de Repentigny. C'est ça qui est... En tout cas, moi, j'ai été contente parce que je m'attendais un peu à un 50-50 entre Paris puis...
C'est sûr qu'on voit le Vieux-Port, genre. C'est tout le temps Vieux-Port.
Même pas.
Yes! Ah, je suis contente.
Ouais.
On l'a assez vu, le Vieux-Port. Même quand tu regardes les Marvel maintenant, bon, c'est le Vieux-Port encore. Bon,
ouais,
c'est Parc Lafontaine.
La rue Saint-Pierre, ça y est. Ouais. Non, fait que c'est ça. Puis c'est vraiment un fait que j'ai trouvé intéressant, étant personnellement étudiante en télévision. Moi, tourner en 25 jours, ça, c'est un court-métrage de 10 minutes, pas un film de 1h45. Et chronologiquement, c'est presque impossible.
Ben oui.
Mais bon, c'est quelque chose que Xavier Legrand a réussi haut la main. Ce film est maintenant vendu dans 60 pays et a produit juste au box-office québécois presque 1 million de dollars à moins de 2 mois de sa sortie en salle.
Aïe, aïe, aïe. Oh là là.
Donc, ce sont des chiffres impressionnants, particulièrement pour le Québec. Et c'est le gagnant du prix du meilleur film de Cinémania.
Bravo!
Donc, ça, c'est pour ma petite introduction de Le Successeur. Et je vais tout de suite vous dire, toutes les critiques, ou presque, disaient que pour apprécier le film, il ne faut rien savoir. Et ça, c'est absolument vrai.
Ah ben là, pourquoi on fait une chronique? Faut pas en parler.
Ben, c'est ça. Je vais raconter de façon très floue.
On peut quand même dire
film.
Spoiler alert, peut-être, potentiel, juste
pas
au cas.
Pas du tout.
Non?
Pas du tout, parce que vraiment, si vous voyez le film, je veux que vous l'appréciez autant que je l'ai apprécié. Personnellement, j'avais aucune attente. Ce que je savais, c'est que ça se passait justement entre la France et Montréal. Et je savais qu'il y avait comme un rapport à la mode. J'avais vu la bande-annonce, mais je ne savais rien de plus. Et vous le savez peut-être, moi, Rue, ça a été mon film préféré cette année. Le Successeur est vraiment deuxième dans ma liste. Le film est d'une beauté époustouflante. Et donc, pour le résumer un peu, donc c'est un suspense psychologique, donc, ou en bon anglais, un thriller. Et comme mentionné, donc ça commence en France. C'est un jeune homme qui s'appelle Elias, à peu près dans la mi-trentaine, début quarantaine, qui a une maison de haute couture en France, un métier très, très stressant. Donc, on va vivre un peu son anxiété, son stress constant. Et il est apporté à refaire des liens avec son père. Et à partir de là, on va découvrir qu'est-ce que son père lui a comme laissé en héritage. Et tout
des
le
traumas.
Long du film... Ben, en fait, oui. Oui, des traumas. Mais d'autres choses encore plus dramatiques que ça, parce qu'évidemment, c'est un suspense psychologique. Et voilà. Alors, tout le long du film, le réalisateur, Xavier Legrand, nous amène dans une direction, nous rapporte dans l'autre. Tu penses que tu as fini de voir tous les plot twists du film. Ils sont pas finis jusqu'à la dernière seconde. Ça finit et tu as le souffle coupé.
OK.
Vraiment.
Ça tient en haleine.
Ça tient en haleine tout le long. Et, tu sais, moi, personnellement, je suis une grande fan de films d'horreur. Je suis très commune avec les codes de l'horreur et du suspense.
Fait qu'être crispée un peu tout le long, c'est...
C'est mon habitude. Okay. C'est vraiment... C'est mon fun. Mais ce film-là a vraiment battu les codes de l'horreur.
En
mode creepy, mais... C'est tellement difficile à décrire, puis je veux tellement pas vous spoil quoi que ce soit, parce que pour que vous l'appréciez vraiment, je veux que vous sachiez autant que moi je savais. Mais sachez que ayez une bonbonne à air. Super. Tu respires plus à un moment donné.
Faut pas être stressé, genre, le jour où tu regardes ce film-là, c'est ça? Faut que tu sois prêt psychologiquement à être challengé, admettons.
Quand même, mais tu sais, je dirais que c'est pas challengeant au point de des films d'horreur qu'à chaque 5 secondes, il y a des jumpscares, puis t'es vraiment sur le bout de ta chaise.
T'en regardes pas, il est où le boogeyman, genre?
Non, c'est ça. C'est là le critère psychologique rentre en compte. Mm. Ben, de un, t'es dans la psyché du personnage, qui lui vit justement son anxiété, puis qui se développe au cours du film, tout ce drame-là. Mais aussi, toi, dans ta tête, t'es comme pris dans des dilemmes moraux ou à te dire qu'est-ce que j'aurais fait dans sa situation. Ouais. T'essayes de le comprendre, de comprendre son père, qu'est-ce qu'il lui a légué. Donc, c'est extrêmement difficile. Et pour dire un peu c'est quoi les thèmes, on a le thème du anti-héros. Donc, Elias va être un anti-héros.
C'est très à la mode, le anti-héros, présentement.
J'adore ça. T'es le souffle, ça, ça pisse.
Contiens-toi, Mireille, contiens-toi.
évidemment, donc c'est un suspense, on parle d'héritage, mais aussi de violence masculine, et c'est un thème que Xavier Legrand aborde dans ses autres courts-métrages et longs-métrages, d'anxiété, comme j'ai dit, mais aussi de lâcheté. Donc, plus que c'est un personnage imparfait, on va voir ses moments de faiblesse, mais aussi de lâcheté totale. D'où ou est-ce qu'on l'aime sans l'aimer, et les dérives patriarcales, justement. Alors, ce sont des thèmes très lourds, mais avec lesquels Xavier Legrand est très, très à l'aise. Et Marc-André Grondin a dit sur le film, et je trouve que c'est très pertinent pour le décrire, « C'est un film qui fait travailler beaucoup le public, qui est essoufflant, étouffant, parce qu'on est pris à l'intérieur de cette maison et de cette tragédie avec mon personnage. On étouffe. C'est bizarre parce qu'on subit un peu ce que lui vit, mais on n'est pas nécessairement empathique. On est comme aspiré, on manque d'air. »
Fait que c'est pas un petit film que t'écoutes pour, avant d'aller te coucher.
Ouais,
là,
ça, c'est un bon 15 minutes à la fin pour juste...
ouais, décanter. Ah oui,
faut que tu regardes le petit cartoon après pour te
décanter. Ouais, ouais, t'écoutes Bugs Bunny.
Un petit Adventure Time après. Là.
Ouais. Puis, encore une fois, je vais toujours voir les films avec ma mère. C'est ma meilleure cobaye pour mes productions de Dans les airs.
On la salue. Allô,
Lynn. Salut, Lynn. Et quand on a fini le film, un peu comme Rue, ce sont les deux films qu'on a regardés cette année, so far, là, disons, jusqu'à maintenant, qu'on a vraiment dû comme respirer, se regarder puis faire « Mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? Wow! Wow! » Et quelque chose que je veux vraiment souligner du film, c'est sa qualité. Souvent, on va dire que, bon, les personnages étaient intéressants ou que ça sort du lot, mais ce film-là, la qualité de la réalisation est hors du commun. J'ai rarement vu un film de telle qualité. Premièrement, la qualité de la conception sonore, juste la fin, comment elle se termine, il n'y a pas d'image, c'est juste le son. Et tu comprends la fin juste par cette conception sonore.
Oh non, j'aime pas ça.
Vraiment psychologique.
C'est très bien.
Ça ajoute justement au suspense psychologique parce que tu vois pas qu'est-ce qui se passe, c'est que t'es pris à écouter très attentivement.
Ouais,
et faire comme « Ah, c'est ça qui se passe,
Imaginez.
Ouais, puis il faut que tu sois très concentré pour écouter ce film-là. Ma mère avait comme même pas eu le temps de capter la fin, disons. Elle était un peu dans la lune à la fin. Elle savait pas que le film finissait. Fait qu'à la fin, je dis « Oh mon Dieu, tu peux te croire que c'est ça la fin? » Puis elle m'a dit « Ah, c'est ça la fin? » J'avais pas compris.
C'est un code aussi. Pas un code, mais c'est une façon de faire aussi en horreur. C'est de pas nécessairement tout montrer. C'est de cacher. Tu sais, mettons, le meilleur exemple, c'est Jaws. Un grand classique. Mais tu sais, le requin, tu le vois presque pas, tu sais.
Ouais.
Puis plus tu caches le monstre, plus qu'il devient épeurant. Exactement. Aussi dans un sens, parce qu'on peut juste se l'imaginer.
Tu sais, avec les sons stressants, la musique.
100%. Puis tu sais, les maudits CGI là, qu'on voit tout. OK, là, moi, c'est vraiment pas glorieux, mon enfant, mais j'ai écouté en fin de semaine. OK, j'ai travaillé en même temps, là, ça c'est mon excuse, mais mes collègues qui ont mis sa TV Cocaine Bear.
OK, ouais.
c'est vraiment con. C'est même pas un film d'horreur, c'est vraiment quelque chose de con, ridicule. Puis on le voit tout le temps, l'ours. Puis c'est pour ça que ça devient ridicule. Il est en gros CGI, puis il est en mode genre, OK, on le montre le plus possible, c'est ça qui devient ridicule. Mais moins tu montres le monstre, plus que tu le caches, moins tu le vois, moins tu l'annonces, plus que c'est terrifiant. Fait que le fait de cacher complètement l'image, puis d'obliger les auditeurs, on est rendu auditeurs, tu sais.
Oui, absolument.
C'est comme d'avoir un bandeau devant les yeux, tu sais.
Il y a aussi des moments où est-ce qu'on voit pas l'acteur, qu'on n'entend pas qu'est-ce qu'il fait, mais qu'on voit juste des plans B, que je dirais. Donc, on appelle ça des B-roll en télévision. C'est un plan qui est pas spécifique à la situation. Où est-ce que tout le long de ce plan-là, tu sais très bien qu'est-ce qui se passe et t'es comme forcé de penser à qu'est-ce que lui fait pendant ce temps-là.
Oh my God, c'est bon, c'est comme la dépersonnalisation. Avez-vous déjà eu ça?
Oui,
faites-vous des crises de panique dans la vie?
Oui.
Ok, yeah.
Mais c'est un peu ça.
C'est exactement ça.
Puis la qualité de la vidéo, il y a des transitions que, sincèrement, la transition venait de finir, puis je passais 5 minutes à faire, mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait? Et je vous donne un exemple. À un moment donné, on est dans la voiture de Elias. Il quitte la voiture, je vous dis pas pourquoi. Et au centre de la voiture, il y a une caméra, OK? La caméra fait un 360 sur elle-même. Et pendant le 360, là, qui est en vitesse normale, on n'est pas en accéléré, quoi que ce soit, pendant juste ce tour-là, une fois un 360, tu vois le lever du soleil.
Ah,
mais la vitesse ne change pas. Il y a pas de, tu sais, on ne voit pas de calque, de choses comme ça. C'est complètement fou comme transition.
Pourquoi il s'est mis cette restriction-là que tu parlais tantôt de faire son film, genre one shot? Est-ce qu'on sait pourquoi ou c'est juste qu'il a fait YOLO, est-ce qu'il m'a le faire?
J'ai cherché un peu. Souvent, c'est des restrictions budgétaires. Pourquoi les
ça
films
serait
peuvent
chronologiquement,
plus rapidement. Mais chronologiquement,
il n'y a pas de raison
budgétaire.
Je pense
que c'est vraiment un choix artistique.
Un défi
personnel,
oui,
c'est ça.
Exactement.
Un défi de nerd, j'aime ça.
Oui, vraiment. Je pense qu'Alexandre Legrand, c'est un petit nerd personnellement.
Ça, les nerds. Il faut être nerd pour être
cinéphile.
Pour faire
un film, c'est un grand nerd.
Vraiment, il est incroyable.
J'ai jamais vu quelqu'un faire un film qui n'était pas un nerd, en fait.
Mais c'est vrai, hein, c'est ça.
Sinon, on n'en parle pas.
Voilà. Puis le dernier truc à souligner, c'est vraiment le jeu d'acteur de Marc-André Grondin. J'ai mentionné tantôt qu'il avait été très vulnérable dans son jeu d'acteur. Plusieurs fois, il va faire des crises de panique. Puis des crises de panique au cinéma, souvent, c'est représenté comme « Ah, oh, je manque d'air, mais que faire? Oh
non,
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 je
non,
vraiment pas ça. »
Mais
il
lui,
a vraiment plus de spectre dans une crise de panique.
C'est vraiment une crise de panique graphique que tu le ressens, tu sais. Puis ça n'a pas peur d'être, désolé l'anglicisme, mais « cringe ». Ça n'a pas peur d'être gênant comme crise.
Parce que,
vraiment...
mon Dieu, c'est, on sent tout, genre,
ouais,
qu'on essaie,
c'est ça, c'est
gênant.
C'est pas glorieux.
Non.
Mais tu sais, tu le sens, puis l'autre affaire, c'est qu'il fait aussi de l'asthme. Et même dans ses crises d'asthme, il est tellement réaliste, j'ai l'impression de plus respirer moi-même.
Mais attends, l'acteur, il fait de l'asthme aussi ou c'est son personnage?
Non, dans son personnage.
Okay, parce que tantôt, tu disais qu'il vivait vraiment ses affaires. J'étais comme, OK, mais là, c'est...
Non.
Le monsieur l'a laissé faire une crise d'asthme, genre, pour la gloire de l'art, ça, c'est peut-être pas correct.
C'est carrément de la maltraitance.
Ben oui.
Non, mais c'est vraiment, tu sais, je suis quand même familière avec le travail de Marc-André Grondin. J'ai écouté beaucoup de ses films, des émissions dans lesquelles il a joué. Puis de loin, c'est sa meilleure performance.
Wow.
Je dis pas ça.
Mieux que Crazy.
Ouais, ben mieux que Crazy, définitivement.
Fait que tu nous suggères tout d'aller l'écouter, là.
Ah, à 100%.
Ah ouais,
let's
OK.
Go.
Si vous n'avez pas écouté Rue, s'il vous plaît.
Oui, c'est
allez
ça.
Écouter.
C'est quoi Rue? Ça me dit rien. J'ai jamais entendu ça.
Absolument,
ça
aller voir ça.
Il va falloir que tu ailles voir dans les archives des émissions dans les airs.
C'est bon.
C'est l'histoire de Kim Thuy. C'est à écouter. C'est mon film numéro 1 de l'année.
By the way, Kim Thuy nous suit sur Instagram maintenant.
Oh mon Dieu.
Oh yeah.
I know. Wow. Je me sens tellement spéciale, la
gang. Allô, Kim Thuy, on t'aime.
J'aime dire mentalement que c'est grâce à moi, OK, les amis.
C'est 100% grâce à toi, d'être
là. Merci. Oh,
let's
mon Dieu.
Go.
Puis je voulais juste, en fait, un peu clore en citant Montréal Campus, qui est le journal de l'UQAM, oui. N'oublions pas, qui a fait une chronique sur le film et qui dit « L'atmosphère à la fois macabre et familière se distingue de la plupart des films de peur », donc comme je vous disais un peu plus tôt. Mm-hmm. « Sans utiliser les codes de l'horreur traditionnelle, le film parvient tout de même à glacer le sang, notamment grâce à son scénario d'un réalisme sensible et angoissant. » Puis je veux vraiment mettre le mot sur l'accent « réalisme », parce que tout le long, tu dis « Mon Dieu, mais je pourrais être dans cette situation-là. Mm. Mon Dieu, ça pourrait être moi.
Oh,
genre,
ouais.
Je pourrais être cette personne-là qui a fait ces mauvaises décisions. »
Fait que c'est pour ça que tu te sens de même tout le long un peu du
ouais.
film. Puis t'es tout... investi autant.
Oui.
Mais là, on travaille pas tout dans une maison de la haute couture à Paris, là, mais
ça serait le fun, là, mais bon.
Y a-tu un background un peu esthétique de haute couture ou ça c'est juste une présentation du
c'est
personnage?
Vraiment
puis...
dans le début. Puis moi, c'est le seul truc qui m'a un peu fatigué. C'est que le début, ça commence avec un gros plan, puis je vais vous dire c'est quoi le plan, parce que c'est vraiment, mais c'est dans le cours, mais dans l'annonce, là. C'est comme un fashion show que les modèles, ils tournent un peu comme en colimaçon, puis c'est un plan quasiment drone qui descend vers le bas, c'est d'une beauté incroyable, les contrastes sont
un peu à la Triangle of Sadness, un peu, là, la vibe.
Ouais, si on veut.
Un peu dystopique modeling life.
Ben... un peu, mais l'image est dans la perfection totale.
OK.
Okay.
Et c'est magnifique, mais l'image, elle dure super longtemps, puis après ça, tu pars complètement cet esthétisme-là, tu sais, qui est très artistique. Après ça, tu tombes dans un réalisme qui clash un peu avec le début.
Fait que c'est un peu leur but de faire ça, là, de faire clasher
que
le début.
Est-ce que ça fonctionne avec le fait qu'ils changent, de ce que je comprends, qu'ils changent d'endroit?
Ça fonctionne, parce que justement, il retourne vers Repentigny. Ouais. Mais dans son retour vers Repentigny, sa santé se dégrade. Mais aussi, ce qui est drôle, c'est que son accent se dégrade. Okay. Au début, c'est le petit français avec son accent tout petit.
Oh, mon
après
Dieu.
Ça, il est là, puis là, il sac là. Oh mon petit affaire, tu sais. Puis là, il y a
il
son
manque de soleil, puis il devient déprimé, puis là,
parce
c'est l'hiver.
Épuisé, ouais. Tout, oui, là, oui, c'est ben, tu sais, c'est épuisant Repentigny, là, pas
aussi. L'hiver, le sport
de Paris, là.
C'est malade. On part d'un endroit où est-ce que tout est beau, tout est magnifique, puis on se rend vers quelque chose de tellement plus réel.
Exactement. Wow. Puis moi, j'étais convaincue que ça se passerait plus à Montréal, tu sais, côté esthétisme et tout. Mais vraiment, c'est complètement centré sur l'esthétisme. Là.
Donc, ouais, c'est comme un petit village, en fait, qui montre. Parce que, ben, pas un petit village, là, mais comparé à Montréal, oui, là, mais je parle, ouais. Il voulait pas montrer comme de la grosse ville, si je comprends bien dans le film.
Ben, je pense que ça ajoute au réalisme.
OK.
Que ça soit Saint-Pantini, puis ça nous donne, en tout cas, surtout pour nous, les Montréalais, ça nous donne encore plus une identification à ce personnage-là que. Tout est imparfait. Puis ça te donne. Tu sais, on a toutes des matantes puis des oncles puis quelqu'un dans la famille qui habite à Repentigny. J'ai l'impression, là. Fait qu'on peut vraiment plus relate, je dirais.
Merci tellement, Delphine, pour cette belle chronique. On peut se rappeler le nom du film encore une fois?
C'est Le Successeur et c'est encore au cinéma en ce moment si vous voulez aller le voir.
Génial. Merci beaucoup. On va mettre tous les liens en description, bien sûr. Nathaniel, les chroniques de l'univers nous attendent?
L'univers du quotidien.
L'univers! Excusez, à Mané,
un jour.
Oh mon Dieu, un jour. Les chroniques du quotidien. Attends, l'univers du quotidien.
L'univers du quotidien.
Je sais pas pourquoi les chroniques de l'univers dans ma tête.
Okay. Ça marche aussi. Mais...
Changeons le titre. Là.
Alors aujourd'hui, je vous raconte une chronique intitulée Des contes qui comptent. Mais c'est des contes. Comme des contes, puis qui comptent comme compter.
Okay.
En tout cas, c'est drôle. Donc, dans les années 1890, la Société américaine du folklore publiait un livre intitulé 50 Tales with Kim Bundo Text, Literal English Translations, Introductions and Notes. Le livre, rédigé en anglais, puis 70 ans plus tard en portugais, une langue liant les locaux, est malheureusement le résultat du colonialisme. Ça a permis la préservation d'histoires et de traditions orales, ce qui est un positif, mais issu d'un contexte négatif. Il est constitué de 50 histoires rassemblées par le père Élie Châtelain, des histoires angolaises. Deux chercheurs de la littérature et de philosophie s'intéressant à l'Afrique se sont penchés dessus dans le magazine Afrique à vivre pour nous expliquer comment ces contes servaient à transmettre les règles sociales. Prenons ce conte, le bâtisseur habile et le bâtisseur empressé, que j'ai traduit avec DeepL et adapté. Deux hommes partageaient le même prénom et emploi. L'un était Ndala, le bâtisseur de l'habileté. L'autre était Ndala, le bâtisseur de la hâte. Un jour, s'en allant travailler, ils traversaient une route quand soudain, sorti de nulle part, une tempête épouvantable s'approchait rapidement à l'horizon, se dirigeant droit sur eux. Tenant à la vie, ils se mirent à bâtir des huttes d'herbe pour s'abriter. Ndala, le bâtisseur de la hâte, bâtit avec, hâte, et entra dans la hutte. Ndala, le bâtisseur de l'habileté, construit avec soin, s'appliqua sur les détails, fignola sa hutte jusqu'à la perfection. Et destruction. Parce que la tempête s'abattit sur lui et le tua. Les deux chercheurs, Pierrette et Gérard Chalandor, enchaînent. Les divergences entre les deux travailleurs ne peuvent se régler par une loi spécifique, mais plutôt par l'intelligence des circonstances, lesquelles exigent de la promptitude et non un savoir-faire exceptionnel. On reconnaît ici l'une des idées maîtresses de la philosophie de la connaissance africaine selon Hampate Ba, « Tout conte a toujours quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes. » Bon là, petite parenthèse. Hampate Ba, c'est un écrivain et ethnologue malien qui défendait la tradition orale. Selon Wikipédia, durant l'Assemblée générale de l'UNESCO en 1960, il lança son appel. En Afrique, quand un vieillard traditionnaliste meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. C'est beau.
C'est beau.
Et c'est devenu un proverbe. Il est appelé le sage d'Afrique et il a rassemblé et étudié beaucoup de contes, d'histoire orale et de sagesse africaine. Bon, je vous ai dit que le livre n'a jamais été traduit en français. Mais qu'en est-il de ces histoires? Eh bien, il y en a au moins une qui a trouvé le chemin vers nos oreilles francophones, l'histoire The Young Man and the Skull. Elle est consignée dans son livre et se retrouve dans le livre Les Philofables de Michel Picmal. Elle a été adaptée pour être lue et comprise par des enfants. Les récits consignés par Picmal sont suggérés comme activité rituelle dans les écoles. Hey, parle-moi de sagesse africaine, professeur. J'avoue, j'ai pas réussi à trouver le livre de Picmal, alors j'ai repris l'histoire à partir du livre lui-même, qu'on peut trouver d'ailleurs en ligne. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, Un jeune homme brillant, très intelligent, tellement presque trop, se pavanait et tomba nez à nez avec une tête. Semi-enterrée, elle semblait plutôt fraîchement plantée. Alors il la tapa avec son bâton en s'écriant « Toi, la bêtise t'a tué !» La tête rétorqua « Moi, la folie m'a tué. Mais toi, l'intelligence t'a tué. » Le jeune homme déclara alors « J'ai rencontré un présage et je reviendrai ici. La tête d'un mort a parlé. » Il revint chez lui, alla immédiatement trouver d'autres et tomba sur des vieillards. Il leur dit « Oh, messieurs, j'ai rencontré un prodige de mauvais augure. » Les vieillards lui demandèrent « Quel présage ?» Il répondit « La tête d'une personne m'a parlé. » Les vieux dirent alors « Ça va ?» Ça va suivre? T'as-tu enfumé du tout bon, toi? Ben non, j'ai essayé, c'est ça qu'ils ont dit. Tu nous mens? C'est impossible. Nous passons devant cette tête depuis longtemps et elle ne nous a jamais parlé. Comment t'a-t-elle parlé? Le jeune, fier comme un paon, insulté comme un paon, bref, qui ressemblait vraiment à un paon, déclara « Allons-y. Je la frapperai avec mon bâton et si elle ne parle pas, qu'on me coupe la tête. » La foule acquiesça et elle se mit en route avec lui. C'est pas tous les jours quand même qu'un homme paon va bûcher sur une tête bien établie, tu sais. Bon, ils arrivèrent à l'endroit. Le jeune homme frappa la tête avec son bâton en s'écriant fort. « Toi, la bêtise t'a tué! » La tête garda silence. La foule aussi. Il recommença. « Toi, la bêtise t'a tué! » La tête garda silence. La foule aussi. Il recommença. « Toi, la bêtise t'a tué! » La tête garda silence. Pas la foule! Et il coupa la tête. Schlack! Demain. Une fois la tête tombée par terre, le crâne dit « Moi, la folie m'a tué. Mais toi, l'intelligence t'a tué. » La foule reconnut « Eh bien, nous l'avons tué injustement. La tête d'un mort a parlé. L'intelligence et la folie sont égales. » Un autre conte, plutôt amusant, fut probablement inventé par un grand-père imaginatif pour répondre à son petit-fils qui lui demandait le soir tard, quand les croassements envahissaient la nuit. « Grand-papa, que disent les grenouilles? » Je vais vous raconter l'histoire de M. Kumbuto la grenouille. Il y avait deux femmes, l'une sa femme officielle, l'autre vraisemblablement sa maîtresse. Il avait installé sa femme à l'ouest, sa maîtresse à l'est, et son endroit préféré était le milieu. Un jour, sa femme finit de préparer la bouillie et envoya un enfant le chercher. De l'autre côté, sa maîtresse avait aussi terminé de préparer la bouillie et envoya un enfant le chercher. Ce qui devait arriver arriva, les deux arrivèrent en même temps, s'arrêtèrent en même temps et dirent en même temps
« On m'a envoyé te chercher. »
Kumbuto dit « Que dois-je faire? Mes deux femmes m'ont demandé de venir. Si je vais chez ma femme, ma maîtresse me reprochera d'être d'abord allé chez ma femme de tête. Mais si je vais chez ma maîtresse, ma femme me reprochera d'être d'abord allé chez ma chérie. » Alors, la grenouille se mit à chanter « I am in trouble. I am in trouble. Je suis dans le pétrin. Je suis dans le pétrin. » Quand les gens croisent la grenouille qui fait ils disent « La grenouille croisse. » Mais non, elle parle. Elle dit « I am in trouble. Je suis dans le pétrin. Je fais Un peu sérieux, franchement. La société est ce bout de métal, le tuteur qui guide les jeunes pousses, l'individu, et les tie wraps qui les lient ensemble, c'est l'imaginaire collectif. Heureusement pour l'Angola, en termes de tie-wrap, ils sont blindés. Car une société où l'imaginaire est en panne est une société qui ne roule pas loin.
Wow!
Wow.
Ah, moi, j'ai pas arrêté de prendre des notes, là.
Moi, je prends note de la joke de grenouille. Mon père va vraiment l'aimer.
Mais de papa, oui.
J'ai jamais entendu Nathaniel faire autant d'onomatopées et je te remercie. J'ai goût de simple les bruits de grenouille puis mettre ça en intro de l'épisode.
Oui. Oui.
Cette semaine. Il y a comme, en gros, il y a trois contes dans le fond qu'on a reçus ici, right? Et j'ai noté, en fait, pour ces trois comptes-là, en fait, le premier, c'est habile versus hâtif. Puis après, il y a comme un peu l'intelligence versus la folie. Puis le dernier, j'ai juste écrit, ben, j'ai comme pas de sympathie pour les problèmes du monsieur.
Moi non plus. Tu penses pas que c'était pour être toi-même.
Non, parce que si tu commets l'adultère, tu fais juste croisser le restant de tes jours. Là.
Mais
c'est juste.
Attends, il y a des sociétés qui sont pas monogames non plus. C'est pas nécessairement un adultère dans ce cas-ci, mais bon, bref, j'ai comme pas.
Mais je t'avoue que je suis habitué de raconter des contes, puis parfois, il y a clairement une morale, clairement, il y a une leçon qu'ils essaient d'enseigner, puis d'autres fois, on dirait qu'ils ont juste eu du fun.
C'est ça.
Il est créatif, là.
Ça leur tentait. Moi, je pense vraiment que c'est un grand-père qui s'est fait demander sais, ça dit quoi les grenouilles? Parce que, mon Dieu, quand les enfants, ils me posent des questions comme ça...
C'est tellement un truc de papa d'inventer quelque chose de même aussi. Oui. Là.
Oh, il a inventé une histoire de rien, là, c'est ça.
Absolument. Exactement.
Puis pour revenir vers l'habile versus le hâtif, moi, ça, encore une fois, je vais parler du processus créatif, admettons, surtout de la peinture, puis ça m'a fait réaliser... T'sais, en tant que quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, admettons, là, moi, je veux plus peut-être aller me loger dans l'habile, admettons, mm-hmm. là, puis genre me sécuriser là-dedans. Puis je pense que j'ai beaucoup à apprendre peut-être d'un processus qui est... J'aime pas le mot hâtif dans ce contexte-là. Peut-être que d'aller se diriger vers quelque chose d'un peu plus impulsif, tu sais.
Impulsif.
Peut-être dans l'impulsion, ouais. Faire confiance à son impulsion.
Intuition.
Oui, c'est ouais, ça. Merci. Intuition. Tu sais, c'est comme l'habileté versus les skills versus l'intuition, puis... Je pense que c'est tellement important en tant qu'artiste d'être capable de balancer entre les deux puis pas de rester logé dans un ou dans l'autre.
Faut sortir des fois, là. Faut sortir de son cocon puis aller...
Absolument. Ouais. Puis ton cocon, ça se peut que ça soit 100% l'instinct, genre l'abstrait, vivacité, puis t'es comme inconfortable à te poser puis aller dans les détails. Mettons, là, je parle encore de visual art, mais tu sais, ça peut être dans littérature, musique, name it, là. Je pense que ça s'applique un peu partout. Mais tu sais, du compte qui nous a été rapporté, puis on comprend aussi beaucoup que c'est contextuel aussi, des fois, si on veut survivre.
C'est vraiment
autant
contextuel.
Quoi, c'est de 100% dans le contexte, puis d'être capable d'aller chercher soit l'un, soit l'autre, ou soit genre faire ta recette entre les deux selon le contexte dans lequel tu te trouves. Je pense que avec l'expérience aussi, ça aide, mais c'est tellement important de comprendre ça. Parce que si tu le comprends pas, après, t'es comme, voyons, pourquoi je suis comme inconfortable? Pourquoi genre je suis pas bien? C'est parce que des fois, on débat un peu certains contextes, puis on a peur, en fait, de sortir de cette... zone de confort, là.
Mon Dieu, que Freud aimerait ce moment-là. La guerre, wow!
Et des fois, la tempête finit par s'abattre sur nous.
Oh mon Dieu, biscuits chinois, j'aime ça! Mais aussi, il y avait la notion, dans ton deuxième compte, il y avait la notion d'intelligence et de folie.
Oui. Mm-hmm.
Mais je trouve que les deux, c'est la même chose. Parce qu'il y a tout le temps l'espèce de cliché, tu sais, le syndrome du génie qui est fou.
Ouais.
C'est 100% ça, là. Dans le fond, la tête puis le monsieur intelligent, c'est la même personne, là, pour moi, là. Quand la tête elle disait genre ah moi je suis morte de folie, toi tu vas mourir d'intelligence, mais dans le fond le dude il était pas tant intelligent pour aller répéter ça aux autres là.
Il était vraiment pas très
intelligent
d'aller
répéter ça. Non, dans le fond il était peut-être fou aussi là, tu comprends? Ouais. Fait que pour moi les deux ils étaient pareils, ouais, c'est comme ça. Un miroir.
C'est intéressant comme interprétation.
C'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça moi non plus.
Hey, moi sérieux quand je l'ai noté j'étais genre si drôle.
Oh wow, guys, avez-vous quelque chose d'autre à noter?
Moi j'aimerais ça oui. Si tu me permets te faire un compliment Nathaniel.
Sure.
Tu me fais penser à Charles Beauchesne qui a le podcast Les pires moments de l'histoire, c'est le plus populaire.
Oh my God,
de
mais quel
audio.
Compliment!
Et ta façon de compter avec tes onomatopées, ton débit de voix et tout, ça me fait vraiment beaucoup penser à Charles Beauchesne.
Expression et tout aussi.
Ouais, je voulais juste souligner ce talent-là. C'est
vrai
que tu as.
Pour vrai, des fleurs à chaque épisode, à chaque fois que tu viens, parce que pour vrai, c'est. Comme tu sais, tantôt, tu me montrais ton texte pour qu'on le révise ensemble, oui. Mais je pourrais jamais prétendre avoir ta plume, ça, c'est sûr et certain. Puis merci beaucoup. Et plume et interprétation aussi.
Mm-hmm. Merci, c'est vraiment
super. Oscar à Nathaniel, go!
Oui! Ça sera finalement intéressant, les Oscars, hein, Mireille?
Eh, boy!
On embarque là-dessus après!
Après la chronique de Delphi, parce que je veux pas prendre de son temps, mais guys. Là, c'est peut-être moi, là, mais pour moi, les Oscars, ils ont manqué de budget cette année. Bref, on n'embarque pas là-dessus tout de suite. Mais
on va faire des recherches sur le budget des Oscars 2024.
On devrait tellement mettre notre argent ailleurs. Anyway!
Mais ça.
Je te laisse le micro, Delphine.
Oui, en fait, ma deuxième chronique, c'est un petit défi de féministe québécoise en honneur à la Journée des droits des femmes du vendredi 8 mars dernier.
Oui!
Yay! J'invite tous les auditeurs et évidemment mes collègues ici à faire avec moi. En fait, je me disais comment encourager dans le milieu culturel et artistique plus de femmes. En fait, premièrement, évidemment, en encourageant leurs œuvres, donc en les lisant, en parlant, mais aussi, évidemment, en leur donnant de la visibilité. Alors, je me suis donné le défi de lire un livre, voir un film et voir une œuvre qui, pour moi, sont féministes, québécoises, évidemment, et mettent en valeur, justement, les femmes. Et à la fin, je vais vous faire une petite recommandation personnelle.
C'est tellement une bonne idée, pour vrai. Cool.
Merci. Donc, je vous invite à le faire avec moi. En fait, premièrement, j'aimerais ça lire le livre « Filles en série » de Martine Delvaux. Martine Delvaux, c'est une autrice féministe, évidemment, qui a écrit plusieurs livres, dont Thelma, Louise et moi, ou Pompière et pyromane, qui était quand même un bon moment au théâtre en 2023, et Le monde est à toi. Mais l'essai « Filles en série » part de l'objectification de la femme, de la misogynie moderne et de l'impact de la culture populaire sur les femmes. Alors, c'est paru en 2013, et j'aimerais vraiment ça, en fait, avoir son point de vue là-dessus. C'est aussi important de noter que c'est une chroniqueuse à la presse qui fait beaucoup de chroniques justement sur le féminisme moderne. Alors, ça serait ma première lecture que j'aimerais faire de cette écrivaine-là, de cette autrice. En deuxième temps, j'aimerais voir le film Lucy Grizzly Sophie. Ça aussi, c'est un film qui fait beaucoup jaser au cinéma, un film québécois qui est réalisé par Anne Aymon et scénarisé par Catherine Anne Toupin, donc deux femmes à la tête. Ça se centre sur un personnage principal féminin qui s'appelle Sophie et ça traite de la cyberviolence envers les femmes, de misogynie et la montée en ligne du discours antiféministe et aussi de cette émancipation-là de Sophie face à ces situations-là. C'est présentement à l'affiche pour un temps indéterminé. Mmh. Alors, j'espère que ma maman va venir le voir avec moi sous peu. Et finalement, l'œuvre, en fait, ce sont plusieurs œuvres que j'aimerais aller voir au Musée d'art contemporain qui s'appelle « Femmes, volcans, forêts, torrents ». Wow. Alors,
c'est beau, ça me parle.
C'est si poétique comme titre. C'est le travail collectif de 9 femmes établies au Québec et qui pose un regard artistique sur le territoire, la nature et l'énergie qui les entoure. Ça sera exposé au Musée d'art contemporain du 11 avril 2024 au 18 août 2024. Alors, je vous invite, il y a des rabais étudiants d'ailleurs, si les gens de l'UQAM écoutent, yeah. Je vous suggère d'y aller. Et pour ma recommandation québécoise féministe, je vous suggère vraiment profondément, fortement, du mieux que je peux, que vous lisiez l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec. Donc, c'est une anthologie qui présente plus de 55 femmes poètes et se situe entre 2000 et 2020. Donc, c'est vraiment très actuel.
Wow.
C'est intersectionnel, c'est puissant. On a plusieurs aussi poètes qui sont autochtones et de Première Nation. Alors, leur point de vue est absolument incroyable. Et il faut savoir aussi qu'ils ne font pas juste mettre les poèmes dans le recueil. Avant de les mettre, ils présentent les poètes. Oh, donc, tu connais leur background, le contexte, c'est quoi leur sujet le plus important pour eux, etc. Alors, c'est vraiment un livre qui vaut la peine d'acheter. Et mon poème préféré de ce recueil, c'est « Slice of Life » littéraire numéro 3 de Marie Darcigny. Marie Darcigny étant une poète qui a étudié ici à l'UQAM en sexologie. Et qui parle justement de son point de vue féministe par rapport à la société montréalaise d'aujourd'hui, en fait. Alors, c'est ça mon petit défi féministe québécois. Je vous invite à le faire avec moi. Et évidemment, pour les 3 œuvres, donc « Filles en série » de Martine Delvaux, « Lucy Grizzly Sophie » de Anne Aymon et « Femmes, volcans, forêts, torrents » au Musée d'art contemporain, ce sont 3 chroniques que je me donne le mandat de faire à Dans les airs cette saison-ci.
On prend ça en note. On pourrait-tu faire ça à chaque semaine,
quasiment?
Merci tellement pour cette belle recherche-là, puis j'ai tellement hâte de voir le contenu que tu vas nous rapporter par rapport à ça.
J'ai vraiment hâte aussi.
Et j'ai pas à prendre des photos aussi.
Oui.
Moi, j'aime ça quand on a des belles photos organiques, quand on est là, genre pour qu'on puisse montrer ça à nos auditeurs, auditrices, là, vraiment. Là. Pardon, Meg, tu voulais dire quelque chose?
Oui, j'ai vraiment hâte au dernier. Le dernier, c'est lui qui m'intrigue le plus.
Le titre est tellement poétique.
Vraiment. Ouais.
Femme volcan, j'ai fait une toile femme volcan, c'est que c'est le fun.
Ah oui.
C'est tellement quelque chose de puissant là-dedans. Là. Oh my God.
Mais j'ai vraiment hâte de voir ça, puis je vais pas vous mentir, là. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça à la suite de ma lecture de « Filles en série ». Inviter Martine Delvaux.
Oh, wow!
Martine, tu es la bienvenue. On y va. On lance une invitation.
On veut Martine.
C'est ça. Je fais aucune garantie. C'est une femme occupée et incroyablement intelligente. Mais
tu me le diras quand tu l'invites. Après, je vais l'inviter encore. Puis après, Nathanaël va l'inviter. Puis après, Meg va l'inviter. Puis là, elle n'aura pas le choix de venir.
On va la spammer. Là.
Let's go. On la spam.
Mais ça serait vraiment un rêve réalisé si elle venait dans les airs.
Moi, je tiens à dire aussi que. Tantôt aussi, j'ai parlé dans mon agenda de la semaine de l'exposition spéciale au Musée des Beaux-Arts. J'ai oublié le titre, bien évidemment, mais j'en ai parlé dans l'agenda. Je pense que c'est un peu dans la ligne de ce que le MAC fait pour le 8 mars, en fait. Et moi, je trouve ça très bien, en fait. Je sais pas si dans ton cas, c'est jusqu'en août, mais en tout cas, le Musée des Beaux-Arts choisit ça de faire une formule un peu plus permanente, tu sais, pas juste pour cette semaine-là, tu sais. Et je tiens vraiment à souligner, puis je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui réalise, là, je parle encore des arts visuels, à travers l'histoire, pas juste l'histoire du Québec ni du Canada, c'est global, là. Les femmes ont tellement été mises de côté. Et je parle même pas des personnes de couleur, parce que ça, c'est encore pire, là. On s'entend, là. Mais en général, les femmes ont tellement été mises de côté. Puis non seulement été mises de côté, mais ils ont été ghostées. Parce que à travers mes, admettons, mes quelques études ou en beaux-arts à l'université, j'ai eu quelques cours d'histoire de l'art, puis ça a été aberrant. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on se penche là-dessus puis qu'on essaie d'ouvrir les portes, mais c'est tellement difficile parce que les archives, il n'y a pas de nom. Dans le fond, ce qui arrivait souvent aussi, c'est que en tant que femme, tu n'avais pas nécessairement le droit de pratiquer la peinture comme étant quelque chose de financier, de vivre de ça. En fait, les femmes étaient souvent attribuées à des tâches comme le tricot, la broderie, etc. etc. Ouais. Il n'y a rien de mal à ça, mais tout ce qui était de peinture de grand maître, souvent, en fait, si une femme pouvait se permettre de peindre, c'était dans l'ombre d'un grand maître et de signer. Le grand maître, en fait, signait pour elle. On appelle ça du ghost painting.
Okay.
Et il y en a beaucoup plus qu'on le pense aujourd'hui. Et là, je parle de grand maître, je ne veux pas dire Michel-Ange, mais comme bref, à ce niveau-là. Là.
Ouais.
Très pas épeurant, mais c'est très... Oui, il y a quelque chose de très épeurant parce qu'on ne sait pas à quel point on va être capable de démêler tout ça.
Ouais.
Parce qu'encore une fois, les archives n'existent presque
pas.
C'est
ça, on peut pas les reconnaître, les
identifier. Voilà, et je trouve ça tellement important aujourd'hui. Wilma qui a pris un pas en avant, Musée des Beaux-Arts aussi, mais je pense que ça devrait être de mise. Tu sais, des fois, je vais chialer que, bon, encore une autre exposition sur Picasso, mais c'est no joke, là.
Ouais.
Oui, le monsieur est mort, puis oui, genre, mettez les artistes vivants de l'avant, mais non seulement ça, mais comme, hey, tant qu'à montrer quelque chose de l'histoire, aller chercher les femmes.
Mm-hmm.
Parce que c'est tellement de la job, mais comme c'est tellement important que la mémoire de ces femmes-là revienne.
Absolument.
Ouais.
Tu viens de me faire penser, en parlant d'histoire, est-ce que vous savez, vous vous rappelez, c'est en quelle année que le droit de femme a eu... Est-ce que vous vous rappelez de
non,
la date?
Non, mais j'aimerais ça, tu le sais-tu? Ouais. Là, tu peux pas poser la question si tu le sais pas.
Ben oui, je sais, mais je vous le demande à vous.
Il me semble que c'est il y a 85 ans.
Ça fait pas longtemps.
1945.
Wow.
Ouais.
C'est si récent.
Ça fait vraiment pas longtemps.
On prend tellement ça pour acquis, ouais, là.
C'est triste.
On pouvait même pas avoir de compte en banque avec ça non plus.
Hey. Non, c'est ça.
Ma grand-mère avait pas le droit de vote quand elle est née.
Non, la mienne non plus. Salut,
nos grand-mères, habituellement, c'est pas mal tout dans le même bout, là. 1945, ouais.
Non, moi, je pense qu'elle avait le droit vote, mais elle avait le droit de vote, mais c'est mon grand-père qui allait voter pour elle.
Ils ont fait une passe-passe au système. C'était trop cool.
Si vous me le permettez aussi, je vous invite à le faire aussi dans votre médium de prédilection, j'aimerais faire des shout-outs aux femmes artistes peintres de ma vie, émergentes et ou non, qui habitent pour la plupart aussi en fait à Montréal. Donc je vais faire une petite liste rapidement et pour la plupart en fait leur Instagram, je vais mettre leur Instagram en description aussi, mais je pense que c'est important de faire des shout-outs dans ces situations-là. Donc on a Catherine Morin qui entre autres vient de faire sa première exposition à Art Basel, l'une des plus grosses conventions d'art à Miami. Elle vient d'aller nous représenter là-bas, donc shout-out à Catherine Morin. Il y a Kezna aussi, qui est représentée par la même galerie que moi, femme de couleur fantastique, qui fait des illustrations et de la peinture fantastique. Vous allez souvent voir ses œuvres aussi en mural à travers Montréal. C'est génial ce qu'elle fait. Si je ne m'abuse, je pense qu'elle vient de faire un livre aussi pour enfants. Roxy Peroxide aussi, dont j'ai vu les œuvres aussi à Miami. Je suis vraiment fière. Sandra Chevrier aussi, qui était présente aussi à Miami et à travers le monde. On n'en parle pas assez au Québec de Sandra Chevrier, de son spectre et de son succès qu'elle a présentement. C'est fou. Patricia Doucet qu'on a reçu ici en studio il y a de ça quelques semaines. Haricot qui est présentement en résidence à Miami aussi. Marie-Claude Duval qui est présentement à New York en train de faire ses études mais qui est 100% au Québec aussi en même temps. Amélia Douché qu'on avait aussi en studio la semaine passée.
Mm-hmm.
Et voilà, merci à toutes ces femmes de bien m'entourer et de continuer à produire comme ça et de rendre le Québec riche. Voilà, oui. Shout out.
Youhou, absolument.
Yes.
Ouais. Puis, en fait, en général, un gros shout-out à toutes les femmes qui travaillent dans le monde culturel,
ouais.
Que ce soit les arts visuels, la musique, la littérature, c'est des endroits qui sont si difficiles à percer, encore plus pour des femmes, puis de garder son pied à terre, puis d'encourager les autres à faire la même chose.
De aussi. Se donner des high-fives, là.
Oui, exactement. Ouais. De se donner une bonne table dans le dos pour continuer. Je trouve que c'est absolument fabuleux. Puis, en effet, elles méritent tellement plus de visibilité, de support. Et je crois que, justement, il faut continuer... à les promouvoir puis à les supporter.
Puis tu sais, si j'aurais fait ma liste de musique puis de littérature, là, on aurait fini l'émission de même. Puis je pense
on aurait juste passé l'émission à lire des listes.
Exactement.
Je trouve que ça fait aussi, tu sais, en lisant la liste tantôt, j'ai fait ah, ben, on dirait qu'ils sont mortes, mais je veux pas. Je suis comme non.
Oh mon Dieu, c'est vrai.
Mais c'est beau, la solidarité. On en a besoin.
Oui.
Moi, j'ai une question pour vous. Peut-être, je vais changer de sujet peut-être avant qu'on conclue, mais. Est-ce que vous avez regardé les Oscars? Parce que je veux pas être la seule à parler des Oscars, puis
non,
peut-être attendre à la semaine
regardé,
prochaine.
Non, j'ai pas regardé, malheureusement.
Ah, t'as pas regardé?
J'ai pas eu le temps.
OK.
J'ai vu des bouts.
Ouais, moi aussi, c'est ça. J'ai vu des
qu'est-ce
petits,
bu?
J'ai vu, reels. J'ai vu évidemment la performance I'm Just Ken de Ryan Gosling avec Margot Robbie en avant.
Mm-hmm.
Puis j'ai entendu dire d'une personne que je ne vais pas mentionner que c'était très plate. On ne sait pas c'est qui à la table.
Sinon, il y a Emma Stone que j'ai vu aussi.
Ah, OK.
Oh oui.
Non, j'ai, lu
j'ai vu un reel de ça, mais rien de plus.
Mm-hmm.
C'est les deux seuls que j'ai vu passer, pour être honnête.
J'ai juste lu l'espèce de résumé en direct de Radio-Canada tantôt en me disant c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va en parler. Fait qu'il faudrait que tu dis qu'est-ce qui s'est passé.
Avant de faire un recap complet, je pense qu'il y a Nicolas la semaine prochaine qui va peut-être se joindre à nous pour en parler puis pour qu'il nous donne aussi sa vision de la chose. Mais justement, on va peut-être parler des points que vous avez vus. OK, je vais vous avouer, confession, c'est moi.
Ah, vrai? Personne l'aurait su. Mais
c'est pas parce que je l'aime pas, c'est juste parce que, OK, c'est peut-être moi qui étais dessus, mais de un, outre Barbie et le féminisme qu'on y accorde, parce que oui, ça se veut, féminisme est mainstream, on s'entend, là, c'est très large, which is OK, j'ai rien contre ça, je suis contente, let's go, on met le féminisme de l'avant dans la grosse machine hollywoodienne qui l'est pas beaucoup, qui l'est pas assez, en fait. Outre ça, moi, je comprends pas pourquoi le monde trouve ça drôle. Je comprends pas pourquoi la chanson en soi ou cette performance-là était de mise pour les Oscars.
Ça n'a aucun rapport.
Puis j'ai rien contre Ryan Gosling. Là. Je le trouve, yo, vas-y, let's go, fais tes affaires. Là. Mais j'ai rien contre lui. Mais j'étais comme, pourquoi on met ça là?
Mais surtout, là, corrigez-moi si j'ai tort, mais il me semble qu'il y a une couple de mois, justement, Ryan Gosling avait performé I'm Just Ken, je pense, à un show live ou à quelque chose dans le genre.
Ouais.
C'est comme... C'est quand, ça commence à être vraiment répétitif.
Ouais, il arrête pas de le faire, c'est ça.
C'est ça, c'est avec ses lunettes solides.
C'est une joke.
C'était drôle dans le film. Il y avait un beau personnage, je peux comprendre.
Ouais.
Mais là, un peu comme qu'on en discutait avant l'émission, c'est un film féministe, puis on fait juste montrer Ryan Gosling.
C'est
juste Ryan Gosling qui gagne les prix.
Genre, pourquoi Margot Robbie, elle fait pas une toune, puis genre, tu sais, puis elle était même pas
un homme.
C'est ça. Pourquoi, genre, de tout ce film-là, qu'on arrête pas de dire mon Dieu que c'est féministe, mon Dieu que c'est féministe, de tout ça, c'est ce qui est présenté.
Puis on s'entend-tu qu'il a pris un 5 minutes de l'Oscar juste pour sa toune. Là.
C'est
on
ça. S'entend.
Puis j'ai pas trop compris non plus, il était où le but?
Ouais.
Qu'est-ce que ça l'a apporté?
Ouais,
pourquoi l'enthousiasme?
Ouais, c'est ça, je sais pas trop quoi dire moi non plus
même
par rapport à ça.
Même lui, il a l'air à trouver ça absurde. Bon, OK, je retourne.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand il a...
La routine.
Ouais, exactement. Puis quand il avait accepté son prix, il avait dit vraiment qu'il était déçu puis surpris que Margot et Greta, donc réalisatrice et productrice, actrice principale, n'ont pas gagné
rien du
de
tout.
Prix.
C'est ah, rien?
Non, ils n'ont rien gagné du
rien
tout.
Rien du tout.
Ah, moi,
ils ont été nominés, ils n'ont rien gagné. C'est Ryan Gosling qui a gagné
c'est lui
le
qui
meilleur
a gagné,
rôle
non?
secondaire, je me trompe
oui.
pas.
Oui.
Mais pas pour les Oscars.
Non, ça, c'est Oppenheimer. Oppenheimer, meilleur acteur secondaire de support ou je sais pas c'est quoi trop.
OK.
Mais... Non,
je sais que Ryan Gosling a gagné.
Il a gagné un prix, mais je sais pas lequel, moi non plus.
Mais c'était complètement aberrant, c'est surtout...
Fait que les deux autres, ils n'ont rien gagné. Margot Robbie,
Greta,
non.
Non, non,
ben,
lui,
ça.
Il a gagné juste
c'est
à cause
ça.
De son petit sketch de musique.
C'est comme qui décide? Genre, pourquoi? Genre, c'est clairement, l'industrie n'a pas compris le message.
Non, non.
Est-ce que c'est ça qu'on a à retenir, vraiment?
Ça a passé dans une oreille, ça a sorti de l'autre.
Bravo, monsieur, t'as joué dans un film féministe. Tu sais, c'est juste ça.
Avez-vous vu aussi...
T'as volé la vedette,
C'est vraiment youpi.
T'as volé la vedette à Barbie, genre.
C'est ça, c'est fou, pareil, hein. Que le fait que c'est Ken qui va la à Barbie, quand la chanson, c'est vraiment « I'm just Ken », genre « Je ne suis que Ken ».
Puis le but du film, c'est on veut mettre la femme de l'avant, mais c'est un homme qui va battre le reste. C'est lui qui a eu tout, mais...
C'est si drôle. Ça. Tu m'aurais raconté ça quand j'étais au primaire, je t'aurais pas cru.
C'est quand même ironique, c'est ça.
C'est tellement ironique. Mais aidez-moi un peu à me souvenir, parce qu'avant les Oscars, il y avait justement un autre gala. C'est pas déjà le nom.
Nicolas, il aurait été capable de te dire, c'est ça.
Les Golden Globes.
Non, Golden Globes, ça existe encore, non? Ça existe plus, les Golden Globes?
Je sais plus, mais en tout cas, le gala avant les Oscars, où est-ce que justement Greta et Margot n'ont pas gagné de prix, c'est Ryan Gosling qui a gagné le prix. C'est Joe Coy qui animait le tout.
Ah oui, je l'ai vu.
C'est Joe Coy qui animait le gala. Et pour introduire Barbie, notre magnifique Joe Coy l'a introduit comme un film... En fait, il a dit que Oppenheimer, c'est un film super important qui parle de la bombe nucléaire et que Barbie, c'est juste un film sur une poupée blonde avec des gros seins.
OK, wow. Ça, mais
c'était
là,
son introduction.
Pour les auditeurs du triche, je suis en train de faire des grandes simagrées de désespoir en arrière de mon micro. Mais c'est puis on s'entend que la plateforme, toutes les plateformes étaient d'accord pour dire que c'était juste plainly insultant puis c'est qui ce monsieur-là. Mais en fait, c'est ça, ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'on raconte, c'est que ce monsieur-là, Nobody Cave, littéralement, qui a été engagé pour faire l'animation de ce grand gala-là.
C'est pas lui qui a écrit.
De un, puis il l'a dit sur le site, « Ouais, mais c'est pas moi qui ai écrit la joke, si vous riez pas, c'est pas de ma faute. » De un, ça prouve comment qu'il est médiocre. Mm-hmm. De deux, apparemment, c'est lui qui a eu la joke parce que personne voulait le faire.
Pour vrai.
Parce que Ricky Gervais, il y a ça des années, il a « own the shit », puis il a vraiment été en mode « je défais devant tout le monde le complet système d'Hollywood qui est complètement pourri ». Je sais pas si vous avez déjà vu Ricky Gervais qui fait l'animation de ce gala-là. Non. C'est légendaire. Puis le monde rit noir. Oh, il est devant la complète industrie.
Ça rit d'Hollywood. Fort,
là. Ben, ça rit, mais jaune. Okay, ça rit noir, okay, jaune.
Okay. Ouais, parce que c'est pas la même chose.
Mais là, c'est
pas la même
chose. Ça rit noir,
ça rit beaucoup. Mais ça rit mal à l'aise.
Ça rit mal à l'aise, ça rit noir aussi en même temps parce qu'il est comme en même temps. De toute façon, moi, je t'écœurerais d'être là parce que tout le monde sait que vous êtes tous des pédophiles. Ah oui, il rentre dedans, mais c'est bon, là. C'est excellent, puis il est en mode... C'est même pas un personnage. Tu sais, il boit sa bière avec... De toute façon, c'est sûr, je reviens pas. Fuck that shit, je vous dis vraiment
wow,
les vraies...
Ouais,
vraies
choses. Okay.
Wow, ça puis a
l'année
fait
l'année d'avant, c'était Chris Rock s'était fait frapper par...
Oui, mais il y a voilà. Des fois quelqu'un qui s'est fait frapper, mais ça, on
ouais,
s'en
c'est Chris Rock.
C'est Chris Rock.
Voilà.
OK. Voilà.
Fait que dans le fond, c'est vraiment pas le fun d'être animateur de...
Mais non, puis là, cette année, il y avait ce moron-là. Genre, je pense que c'est juste parce que personne voulait prendre la job après ça.
Ben, ils ont compris que c'était dangereux.
On est correct, écoutez-vous pas, on se rendra pas là.
Mais tant qu'à
moi, je m'essayerai pas.
Avoir des morons de même, je trouve ça 100% plus dangereux.
Ouais, non, c'est ça. Ouais.
Dangereux pour la femme. En tout cas, parce que je sais que Margot Robbie, genre, elle s'est faite insulter, genre, direct. Ah, non.
Ouais. Puis moi, ce que je trouve fou, c'est que, tu sais, tu introduis le film féministe mainstream. Puis on
de l'année, parle, là.
De l'année, qui a fait la une. Je pense que c'est le film qui a eu probablement le plus de publicité puis de marketing dans le monde.
Tout le monde
habillé
en rose.
C'est Oppenheimer versus Barbie.
C'est un événement.
Puis il réduit la situation Oppenheimer, le meilleur film du monde, sa bombe nucléaire, super intelligent, scientifique, wow, et Barbie à...
Madame avec des gros seins.
Ouais. Une bombe avec des gros seins.
Mais ça, c'est la preuve qu'il a juste ça rien compris puis que des morons comme ça, ça peut tellement faire du damage à des causes comme
mais,
ça. Là.
Tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'il a dit qu'il a vu le film. Moi, c'est ça. Me semble que...
C'est pire!
Me semble qu'il avait dit, c'est le monde de comme, oh mon Dieu, clairement que Joker n'a pas vu le film, puis il me semble qu'il avait dit qu'il avait vu le film. Ben, je me dis, mais non c'est... seulement tu passes comme un con, là, le monde l'excuse en disant, ah oh non, mais tu sais, il n'a pas vu le film, j'en peux comprendre, mais il dit, non, j'ai vu le
je
film, c'était
vu.
Ça ma conclusion.
Ouais.
C'est comme,
non, mais même s'il l'aurait pas vu, t'animes le show, faut au moins que t'as vu le film, si tu fais une blague là-dessus, même si c'est même pas toi qui écris ta joke,
c'est un minimum, là. Ouais.
Puis tu sais, à quel point les gens lui font pas confiance quand il écrivent les jokes à sa place. T'sais. Le monde est comme, non, lui, Joker, là, épipip, on va écrire les jokes pour lui, là, c'est pas le meilleur.
Mais
c'est
en plus, mais ça arrive souvent, en fait, dans le milieu de l'humour, où est-ce qu'il y a de la coécriture, ou ça, c'est courant. Mais de le dire sur stage, parce que tu te rends compte que tout le monde te regarde comme un maudit, je dirais pas le mot, puis de le dire, « Ouais, mais c'est pas moi qui... » T'es 100%...
C'est pire, je pense.
Ouais.
T'as genre l'intelligence d'un pingouin, là. Même pauvre pingouin, je vais les insulter, là. Je m'excuse, là, mais...
Mais le pire, c'est que... Moi, personnellement, j'ai quand même travaillé dans le monde de l'humour pendant un moment. Puis Jokoy, pour l'humour anglophone, c'est même un gros nom. Oui,
ah, okay.
C'est quand même
Il est plus drôle
t'sais.
En anglais.
Ben, je pense qu'il est pas drôle du coup.
C'est drôle du mal.
Mais... Je pense, parce que, par exemple, il y a 2 ans, pendant le festival Just for Laughs, il y avait un gros show quand même. Je pense que c'était pas loin du Centre Bell ou en tout cas ce genre de public-là.
2022, ça se peut-tu?
Oui.
C'est ça.
Okay. Hein?
Okay, ouais.
Fait que c'est un gros nom, Joe Coy, là. Tu sais, c'est pas...
Ben, j'espère qu'il y a plus de job, là, excusez-moi, mais...
Mais le pire, c'est que je me prenais dans l'UQAM il y a 3 jours, dans
le... Tu l'as croisé?
A, là. Non, j'ai pas croisé Joe Coy.
On l'invite dans les airs.
C'est ça, ouais. Martine Delvaux et Joe Coy.
En même temps.
Ouais.
Non!
Ça ferait des beaux à choc,
hey, tout le monde en parle, Star, j'aime ça.
Ouais. Mais non, c'est ça, dans le pavillon A, il y avait une affiche qui est en train de promouvoir le show de Joe Coy qui s'en vient à Montréal. Puis je trouvais ça complètement dément. J'étais comme, croire qu'ici, à l'UQAM, après tout ça, il y a des pancartes de Joe Coy.
Moi, je veux savoir c'est qui accroche ces pancartes-là.
Moi, je veux savoir où pour que je l'enlève.
On va toutes les enlever.
Elle est au 2e étage.
Chasse au trésor.
Parce que moi, c'est mon genre. J'aime pas la pancarte, je l'enlève.
J'aime ça, Megan. J'aime ça, Megan.
Un peu passif-agressif.
Ouais, exactement. Ben, ça mérite pas sa place, là.
Hein?
C'est pas tant passif.
C'est juste agressif.
Ça dépend des jours.
Ben, c'est passif dans le sens si tu te caches puis si t'as cache.
Ouais,
genre,
c'est ça.
Tu le fais devant la personne, genre, j'aime pas ton event. Genre,
après la pancarte, t'as la bas devant la personne.
Anarchy, chaos.
I am vengeance.
Je veux quand même sur une note un peu plus positive, vraiment plus positive en fait. Je voudrais qu'on finisse en beauté avec la notion de Poor Things avec. Oh merde, j'ai oublié son nom. L'actrice qui a gagné, c'est. Hein, j'ai oublié. Emma Stone.
Oui, OK, Emma Stone.
Oh my god,
okay.
Oh my god.
Je me demandais
on regardait
tout
avec les yeux
de cette chérie.
Ouais, ouais. Excusez là, le monsieur cave, il a pris toute la place dans ma tête. Emma Stone qui a gagné meilleure actrice avec le film Poor Things. Si vous n'avez pas encore vu Poor Things, encore une fois,
you need to watch
it.
You
Poor Things.
You Poor Things, parce que ben, je sais pas, je pense que je l'avais déjà mentionné un peu dans un autre épisode. En fait, Poor Things, c'est vraiment en mode la femme enfant. Ce qu'on fait du concept de la femme enfant. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept-là, c'est l'espèce de phénomène un peu où est-ce que l'homme projette sur un corps d'une femme mature, mais qui veut une psyché. D'une femme infantile. Okay. Ça, c'est le concept de la femme-enfant un peu. Mm-hmm. Oh. Mais la femme-enfant qui se re-own, qui se redécouvre, qui redevient. Ah, c'est vraiment, c'est tellement beau. Puis pour vrai, là, je veux pas être plate, tant qu'à moi, ça, c'est vraiment plus féministe que Barbie.
Est-ce que c'est disponible sur des plateformes de streaming?
Pour le moment, non, je crois. Je suis pas assez au courant, je regarde pas assez de télé pour ça. Mais je l'ai vu au cinéma du Parc. Allez-y, je pense qu'il est disponible encore pas mal dans tous les cinémas, surtout après les Oscars de hier. Mm-hmm. Je pense qu'il
puis Emma, c'est l'actrice principale?
Oui, c'est l'actrice principale. T'as Dafoe aussi là-dedans qui est vraiment fou braque. Et non seulement ça, mais ils ont gagné aussi costume de l'année.
OK.
Là, c'est une femme qui fait tous les costumes là-dedans et c'est débile mental. Mm-hmm. C'est vraiment en mode surréaliste. Si vous aimez comme Dali, c'est fou là. C'est fou.
Puis j'ai vu aussi qu'elle avait été émue quand elle a reçu son Oscar.
Émue, c'est un petit mot, je pense. C'est comme le classique de l'actrice qui finalement a son trophée. Qui est comme,
enfin.
Oh my God. Hein. Puis elle est tellement humble dans le sens qu'elle fait juste remercier du monde. Puis elle est comme, genre, je serais pas là sans vous. Puis of course, genre. Mais comme c'est vraiment juste beau, tu sais, en tant que femme, de voir une femme qui réussit
puis qui est fière de toi aussi.
Puis qui se permet de pleurer aussi. Ouais. Merde, les hommes, quand vous recevez des trophées, allez-y pleurer, genre.
Ben oui. Un homme triste, on aime les hommes tristes.
Ben, ému, surtout. Oui. Les hommes avec des émotions. Avec des émotions qui montrent leurs émotions.
Oh, la tristesse.
Oui, je pense qu'il faut encourager ça. Hey, si Ken aurait pleuré, peut-être que je l'aurais aimé plus. Bref.
Ryan Gosling, prends des notes.
Aviez-vous d'autres choses à rajouter, guys, avant qu'on se quitte pour aujourd'hui?
Ça fait le tour, je pense.
Ouais. Megan, merci d'être venue avec nous. J'espère que tu as du fun pour ta première fois.
Ben oui, j'ai full aimé ça. On va se revoir.
All right. Hey. Puis Delphi, on a toutes pris ces notes-là. Tu as 3 belles chroniques à nous préparer, c'est bien ça?
Oui, yes. Soyez prêts, là. Attachez vos trucs avec la broche.
On est prêts et prêtes, Nathaniel. Au plaisir de réécouter ta plume.
Absolument.
Et la voix mélodieuse.
Yes. All right, guys. Bonne semaine et bonne fin de semaine.
Salut, c'est Alex Burger, vous écoutez Choc, et puis j'aime quasiment ça. À bientôt.
Parfait, ça, je pense.
Yeah, OK.
Salut les anonymes, c'est J.U.D. de D'amour et de sexe, et c'est le moment que vous attendiez tous. Le 17 mars prochain, préparez-vous à une soirée épique au House Gang pour célébrer les 6 ans et le 300e épisode de votre podcast préféré. On va recréer l'ambiance du studio dans un enregistrement spécial devant public. Sur scène avec moi, certaines de vos co-animatrices préférées, Tia, Tammy Tuesdays, La Sirène. Puis en plus, je vais être accompagné de Edlin de LCDA et de Mackie Lavender. La première partie sera assurée par le talentueux humoriste Jean-Michel Élie. Et l'ambiance musicale sera assurée par le sensationnel Quad. Attendez-vous à des éclats de rire, des discussions enflammées et des prix à faire gagner tout au long de la soirée. Soit rendez-vous au Instagram de D'amour et de sexe et cliquez sur...